RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Dans Grand Reportage, aujourd'hui, nous vous proposons un voyage au Chili pour illustrer cette réunion qui débute aujourd'hui au Vatican. Un sommet qui rassemble les présidents des conférences épiscopales du monde entier sur le thème de la protection des mineurs. Derrière ce titre, il s'agit d'évoquer les nombreux cas de violences sexuelles révélés ces dernières années au sein de l'Église catholique. Cette conférence intervient un peu plus d'un an après la visite très critiquée du pape François au Chili, où il avait défendu un évêque soupçonné d'avoir couvert les agissements d'un prêtre pédophile. Depuis, dans le pays, les victimes ont été de plus en plus nombreuses à se mobiliser et à hausser la voix. Les témoignages se sont multipliés et le Vatican a pris plusieurs décisions spectaculaires. Mais les choses ont-elles au fond vraiment changé? Violence sexuelle dans l'église chilienne, le combat continue. C'est un grand reportage de Justine Fontaine à la réalisation Pierre Chaffanjon.
La famille de Constanza Acuña a toujours été très pratiquante. Sa mère enseignait même le catéchisme à l'école voisine. Le prêtre de la paroisse était invité au repas de famille, à Noël, au Nouvel An. Il a donné sa première communion à Constanza, a célébré sa confirmation. Et c'est à lui qu'elle se confessait à l'église. Elle a mis des années avant de pouvoir mettre des mots sur les violences qu'il lui a fait subir.
J'ai porté plainte pour des agressions sexuelles répétées pendant 10 ans, entre mes 11 ans et mes 21 ans. Après cela, je suis venue étudier à Santiago et j'ai pu sortir de cette situation. J'ai déposé plainte auprès de la justice canonique le 1er décembre 2017 contre Belisario Valdebenito, un prêtre du diocèse de Villarrica dans le sud du Chili. J'ai dénoncé les faits car à 27 ans, je suis entrée en dépression et pendant ma psychothérapie, ce sujet a ressurgi. J'ai d'abord écrit à l'évêque. Pour enquêter sur mon affaire, il a désigné le filleul du prêtre que j'accusais. Ça a été le premier coup dur. C'était comme affronter une mafia.
Constanza a déposé une plainte devant la justice chilienne l'an dernier. La jeune femme de 28 ans sait que les faits sont prescrits, mais en entendant son récit, d'autres personnes ont aussi osé témoigner pour la première fois. Le prêtre a été remplacé par un autre dans la paroisse où il officiait, mais l'église a indiqué aux fidèles que cette mise à l'écart était liée à des raisons de santé. À ce jour, près de 150 enquêtes sont ouvertes dans les tribunaux chiliens concernant des cas de violences sexuelles présumées dans l'église catholique.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Et Eugenio de la Fuente est le prêtre de la paroisse Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, dans un quartier plutôt populaire de l'ouest de Santiago. Il a été formé par Fernando Caradima, à l'origine du plus retentissant scandale de violence sexuelle dans l'église chilienne, avant de se rendre compte qu'il avait été manipulé psychologiquement par cet homme. C'est lui qui a incité Constanza Acuña à dénoncer son agresseur. Et pour décrire la culture de la dissimulation qui existe, selon lui, au sein de l'église chilienne, il compare à son tour une partie du clergé à une bande organisée.
Es que hay círculos en que se protegen entre ellos
Il y a des cercles d'influence à différents niveaux de la hiérarchie de l'Église, où les personnes se couvrent entre elles. C'est un mélange de complicité, de dissimulation et de négligence. Il existe des sortes d'accords entre ces groupes pour que les affaires ne sortent pas. Par exemple, tu ne racontes pas ce qui me concerne, et je ne révélerai rien sur toi non plus. Et en plus de ça, il existe cette mentalité de la part des évêques de garder des délits secrets pour ne pas entacher l'image de l'Église, et de ne pas porter atteinte à la mission d'évangélisation.
Nous sommes le 16 janvier 2018, en plein été austral. Près de 400 000 catholiques sont réunis sur les pelouses du parc O'Higgins à Santiago pour assister à la messe célébrée par le pape François. C'est la première visite d'un pape au Chili depuis plus de 30 ans. Juste avant la messe, le pape a été reçu au palais présidentiel de la Moneda et dans un message retransmis à la télévision et aux fidèles qui l'attendaient, il a eu ces mots.
No puedo dejar de manifestar Je ne peux m'empêcher d'exprimer la douleur et la honte que je ressens à cause des dommages irréparables commis par des prêtres.
À ce moment-là, un évêque en particulier, Juan Barros, est soupçonné d'avoir couvert les agissements de Fernando Caradima, condamné en 2011 par l'Église catholique pour de nombreux cas d'agression sexuelle. Pourtant, Juan Barros est présent aux côtés du pape pendant tout son voyage au Chili et François prend publiquement sa défense le dernier jour de sa visite. La phrase qu'il prononce alors désespère les victimes, comme José Andrés Murillo, un ancien séminariste agressé sexuellement par le prêtre Fernando Caradima dans les années 90.
Il a dit, bon, ça c'est des calomnies. Et avec ces mots, les calomnies, il ne parlait pas de nos cas, de notre cas. Il parlait de toutes les victimes, de toutes les victimes dans le monde. Et je pense que c'était ça qui a déclenché l'indignation mondiale.
Le prêtre Eugenio de la Fuente.
J'étais très en colère, indigné. Je me suis senti impuissant. Je me suis dit, dans ces conditions, on ne va pas régler ce problème avant 500 ans, car personne n'entend la vérité de ce qu'il se passe dans l'Église. Et le fait que finalement ceci ait permis que ce problème éclate au grand jour, que le pape se rende compte qu'il s'était profondément trompé, qu'il se mette à écouter les victimes de Caradima, qu'il demande pardon et commence cette nouvelle étape, je ne m'y attendais pas du tout et j'en suis très reconnaissant aujourd'hui.
Le contamos ahora que de madrugada y en completo hermetismo arrivó a Chile Monseigneur Charles Chicluna.
En l'espace de quelques mois, le pape prend alors plusieurs décisions retentissantes. Dès février, il envoie des émissaires spéciaux enquêter sur le cas de l'évêque Juan Barros, puis sur l'ensemble des affaires de violences sexuelles et d'abus de conscience au sein de l'Église chilienne. Des dizaines et des dizaines de personnes demandent à être reçues par l'archevêque de Malte, Charles Chicluna, et le prêtre espagnol Jordi Bertomeu lors de leur visite. Josefina Martinez est psychologue clinicienne et en tant que spécialiste des violences sexuelles, elle fait partie de deux commissions de l'Église sur le sujet. Elle a été impressionnée par le nombre de personnes venues témoigner auprès des émissaires spéciaux du pape l'an dernier.
La première réaction a été la suivante. Il est vraiment frappant de constater que toutes ces victimes ont besoin d'aller vers des personnes extérieures à l'Église chilienne. Je me suis demandé pourquoi, et c'est clairement parce qu'elles ont considéré que les instances locales n'étaient pas dignes de confiance. C'est l'un des points les plus importants sur lesquels l'Église doit faire son autocritique.
Après avoir reçu des milliers de pages de témoignages rapportées du Chili par ses émissaires spéciaux, le pape François invite des victimes à le rencontrer au Vatican, puis il convoque la conférence épiscopale chilienne à Rome. Tous les évêques du pays finissent par présenter leur démission à l'issue de leur visite. Pas moins de 7 d'entre eux ont depuis été écartés de leur diocèse et plusieurs prêtres accusés de violences sexuelles ont été exclus du clergé. Des décisions inédites selon Martial Sanchez, cet historien est spécialiste de l'Église chilienne.
Le pape a convoqué la conférence épiscopale à Rome. Pendant leur séjour, ses membres n'ont été invités à aucun événement important au sein du Vatican, ce qui n'était jamais arrivé avant. Ensuite, il leur a donné un document extrêmement dur, comme je n'en ai jamais vu dans l'histoire récente de l'Église, et dans lequel il accuse ceux qui dirigent l'Église d'avoir caché des preuves concernant les violences sexuelles sur mineurs dans ce pays. Et tout cela a abouti à ce que, pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique, l'ensemble des membres d'une conférence épiscopale mettent leur poste à disposition.
Toute une conférence épiscopale présente son cargo à disposition.
Nous sommes dans une salle de congrès à Viña del Mar, une ville côtière du centre du Chili. Ce jour-là, José Andrés Murillo est invité à une conférence sur les violences sexuelles dans l'Église. Et dans le public, tout le monde connaît son histoire. En 2010, il est l'un de ceux qui a osé dénoncer publiquement l'embrigadement et les agressions sexuelles commises par Fernando Caradima, qui était alors prêtre dans un quartier chic de Santiago. Nous le retrouvons un peu plus tard au siège de la Fondation para la Confianza, qu'il a cofondée dans le but de lutter contre les violences sexuelles sur mineurs.
Pendant mon adolescence, je pensais que j'avais une vocation pour la vie religieuse. Et je me suis approché au monde du prêtre Caradima, Fernando Caradima, qui était très célèbre, qui était un peu censé être saint. Et le monde Caradima, c'était un peu une petite secte dans laquelle j'ai subi de harcèlement psychologique, abus de conscience, harcèlement sexuel aussi.
Pendant des années, ses lettres et son témoignage sont ignorés par l'Église, jusqu'à ce qu'avec trois autres victimes, ils dénoncent à la télévision publique chilienne les agressions qu'ils ont subies. Fernando Caradima est finalement condamné par la justice canonique et ceux qui ont dénoncé ces actes deviennent des symboles de la lutte contre les violences sexuelles dans l'Église. José Andrés Murillo ne pensait pas être invité un jour au Vatican. C'est pourtant ce qui a eu lieu après la visite au Chili des émissaires spéciaux envoyés par le pape pour enquêter sur les affaires de violences sexuelles.
Il nous a invités au Vatican pour nous dire pardon, mais aussi pour recevoir des suggestions pour lutter contre l'abus sexuel.
Vous, en tant que victime qui aviez été accusée de porter atteinte à l'Église, de vouloir porter atteinte à l'image de l'Église, enfin, à ce moment-là, vous avez été reçus par le pape comme des personnes qui pouvaient apporter quelque chose à la rénovation de l'Église.
Ça, c'est exactement le changement de mentalité. Il y a maintenant une lutte dans l'Église catholique entre cette partie qui considère complètement inacceptable l'abus sexuel et cette autre faction de l'Église qui ont envie de conserver le pouvoir un peu obscur de l'Église. Je pense qu'un pourcentage important de tous ces évêques mérite d'être en prison plus que dans le Vatican.
Même s'il salue les décisions du pape, il considère que les actions de l'Église restent très largement insuffisantes aujourd'hui.
Je pense qu'échanger des évêques, c'est une façon de ne rien faire. Et je pense qu'ici, ce qu'il faut faire, c'est de mettre en question la structure du pouvoir dans l'Église catholique, qui en fait possible l'abus sexuel. C'est la seule façon de comprendre et de lutter contre l'abus sexuel, pas de changer des évêques, pas de faire des réunions avec beaucoup de ces évêques, tous spirituellement affectés et tristes par l'abus sexuel.
Un point de vue partagé par le prêtre et Eugenio de la Fuente.
Ils sont toujours dans la réaction. Ils ne prennent pas d'eux-mêmes des initiatives importantes. Il y a des plans de prévention, des règlements, mais presque rien comparé à la gravité de cette crise. Leurs actions sont encore très limitées concernant la question de l'autorité et du pouvoir au sein de l'Église. Et ils n'interviennent pas dans les régions où tout le monde sait qu'il existe de grands abus de pouvoir et de conscience. On ne parle pas de viols commis en utilisant la force physique. Ce sont des violences qui interviennent précisément dans le contexte d'abus de conscience à l'intérieur de l'Église, d'abus de pouvoir du prêtre vis-à-vis de la victime.
Un peu par hasard, Constanza Acuña avait été embauchée au département d'éducation de la conférence épiscopale avant de porter plainte contre le prêtre qui l'a agressée. Elle y travaille toujours et elle affirme que certains évêques considèrent qu'ils ont été punis trop sévèrement par le pape.
Certains évêques de la conférence épiscopale du Chili ont tendance à se victimiser, à se sentir menacés, parce que par exemple le pape a envoyé des personnes enquêter sur ce qui se passe au Chili. En public, le discours n'est pas le même qu'à l'intérieur de la conférence épiscopale, où certains n'ont pas encore pris conscience de la gravité de ce qui se passe dans le pays.
Nous avons rendez-vous au siège de la conférence épiscopale du Chili, à quelques pas du quartier universitaire de Santiago. Fernando Ramos nous reçoit dans un grand bureau lumineux qui surplombe l'Alameda, la principale avenue de la capitale.
Je suis évêque auxiliaire de Santiago et secrétaire général de la conférence des évêques du Chili.
C'est lui qui représentera les évêques chiliens cette semaine au Vatican, car le président de la conférence épiscopale, Santiago Silva, a été mis en examen l'an dernier. Comme sept autres évêques chiliens, il est soupçonné d'avoir couvert un prêtre accusé de violences sexuelles.
Le président souhaitait que l'attention soit focalisée sur l'importance de ce sommet et non sur d'autres considérations. Cela aurait risqué de détourner l'attention du sujet qui importe réellement la protection des mineurs et les réponses sur lesquelles travaille l'Église pour faire face à ce type de situation.
Il reconnaît que l'Église chilienne, en tant qu'institution, n'a pas su accompagner les victimes de violences sexuelles, mais il souligne que des actions de prévention et des formations ont été menées dans tous les diocèses du pays et se poursuivent en ce moment. Il affirme aussi que les évêques se réunissent désormais avec des victimes.
J'ai rencontré 6 personnes qui m'ont fait part de leur expérience, des souffrances qu'ils ont traversées, et cela a été très éclairant.
Tous les évêques se sont réunis avec des victimes ou ont prévu de le faire ?
C'est ce à quoi nous nous sommes engagés en août dernier. Mais je ne sais pas exactement si tous ont rencontré des victimes, ni combien de victimes.
Est-ce qu'ils doivent rendre compte de cela ? À qui doivent-ils rendre compte ?
Non, nous ne sommes pas engagés à rendre compte de cela, mais plutôt à nous rendre disponibles et attentifs à ce qu'ont vécu les victimes.
Mauricio Pulgar est un ancien séminariste de la région de Valparaiso, dans le centre du pays. Il raconte avoir vécu l'horreur lors de sa formation pour devenir prêtre, harcelé sexuellement, interdit de voir sa mère. Il explique aussi avoir subi des attouchements et enfin un viol de la part d'un prêtre alors qu'il avait déjà quitté le séminaire. Il dénonce plusieurs fois les faits au sein de l'église, puis porte plainte devant la justice ordinaire.
Comme les faits étaient prescrits, la justice n'a pas pu mener l'instruction jusqu'au bout. Et l'église a utilisé cela pour dire qu'ils étaient innocents.
L'an dernier, l'évêque de Valparaiso, accusé d'avoir étouffé des affaires de violence sexuelle, a été écarté de ses fonctions. C'est l'évêque Pedro Osandón qui a été nommé pour assurer l'intérim à la tête du diocèse. Il a pris contact avec des victimes, dont Mauricio Pulgar, qui a cru que l'Église avait enfin changé d'attitude à leur égard.
Nos invitó a mis compañeros de denuncia y a mí, somos 6 denunciantes.
Il nous a invités tous les 6, d'autres victimes et moi, à nous mettre à la table des négociations avec l'objectif d'établir la vérité et la justice. Nous avons eu une nouvelle réunion avec la promesse de reconnaître notre condition de victime et l'idée de réfléchir à des réparations du fait des dommages psychologiques et physiques dont nous souffrons. Mais quand nous nous sommes rendus sur place, l'évêque Pedro Osandón a refusé de nous reconnaître comme victimes, comme des laïcs. Participer aux réunions, on a été un peu naïf et on a cru en leur bonne volonté.
De pensar que había una buena voluntad porque vimos que había laicos.
En plus de faire reconnaître ce qu'elles ont subi, les victimes demandent aussi réparation, notamment économique, pour les séquelles psychologiques et parfois physiques qu'elles ont gardées. Le prêtre Eugenio de la Fuente.
La réparation, d'un point de vue économique, c'est l'une des grandes peurs de l'Église dans tous les pays. Ils sont terrorisés à l'idée qu'il puisse y avoir toute une série de recours devant la justice civile pour exiger réparation.
Pour la psychologue Josefina Martinez, membre de 2 commissions de l'Église sur les violences sexuelles, la réparation est pourtant essentielle pour permettre aux victimes de se reconstruire.
L'Église n'est pas encore suffisamment consciente du fait que quand elle ne protège pas les victimes, elle aussi devient responsable du préjudice causé. Et puis, ils voient souvent uniquement la réparation comme une réparation financière. Et donc, ils disent, le diocèse de Boston a fait faillite à cause des indemnisations obtenues par les victimes. Mais ce cas de figure se présente quand les victimes n'ont pas été écoutées avant.
Le combat se poursuit donc aujourd'hui devant les tribunaux, où plusieurs victimes de Fernando Caradima ont porté plainte au civil pour tenter d'obtenir une indemnisation de la part de l'Église. Au Chili, chaque mois, de nouvelles personnes racontent qu'elles ont été victimes de violences sexuelles de la part de prêtres. Et les témoignages vont continuer d'apparaître partout dans le monde, disent les victimes. Un avis partagé par la psychologue Josefina Martinez, membre du Conseil de prévention des violences dans l'Église.
Il est important de comprendre qu'il y a des facteurs de risque dans l'Église. Et si vous demandez s'il y a plus de violences sexuelles dans l'Église chilienne que dans d'autres pays, eh bien je ne crois pas, car ce qui s'est passé au Chili, c'est qu'on a commencé à parler de ce sujet. Donc quand on nous contacte depuis d'autres pays et que certaines instances de prévention nous disent qu'il n'y a pas de cas chez eux, ce n'est pas pour être alarmiste, mais ce qu'on se dit, c'est que des affaires vont bientôt apparaître chez eux aussi.
Violence sexuelle dans l'Église chilienne, le combat continue. Un grand reportage de Justine Fontaine, réalisation Pierre Chaffonjon.